Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'ASC M23 ont repris ce lundi 13 avril à Genève, en Suisse. Il s'agit du 9e round des discussions entre les deux parties après plusieurs semaines d'arrêt. C'est dans le cadre du processus de Doha. À l'ordre du jour figure notamment la relance des discussions directes entre les deux parties et l'évaluation de la mise en œuvre des deux protocoles qu'elles ont déjà signés, à savoir les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, ainsi que les mécanismes de libération des prisonniers. La reprise des discussions intervient dans un contexte marqué par la poursuite des combats dans certaines zones du nord et du sud Kivu. Les États-Unis prennent part aux discussions en tant que facilitateurs, tandis que la MONUSCO participe à cette nouvelle phase en qualité d'observateur. Que pensez-vous de la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'ASC M23? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Juvenal Mounoubo Moubi. Il est avocat, il est cadre de l'Union sacrée de la Nation, il est député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Bonsoir maître Juvenal Mounoubo Moubi.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et lui aussi, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre ici au studio. C'est Placide Nzilamba, il est secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Et en ligne, Bob Kabamba, politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Bonsoir professeur Bob Kabamba.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Bienvenue une fois de plus à tout le monde dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de la C1-23 ont repris ce lundi 13 avril à Genève, en Suisse. Il s'agit du 9e round de discussions entre les deux parties après plusieurs semaines d'arrêt. Des discussions qui interviennent dans un contexte marqué par la poursuite des combats dans certaines zones du nord et du sud Kivu. Martial Papimukeba pour les détails.
Selon plusieurs sources, la délégation de l'AFC M23, composée de plusieurs de ses hauts cadres, est conduite par René Abandi, négociateur principal et secrétaire permanent de la rébellion. Côté gouvernement, la délégation est dirigée par Sumbu Sitamambu, haut représentant du chef de l'État congolais. Les États-Unis prennent part aux discussions en tant que facilitateur, tandis que la MONUSCO participe à cette nouvelle phase en qualité d'observateur, précise nos sources. Cette reprise des négociations intervient après la signature le 14 octobre 2025 à Doha au Qatar d'un mécanisme conjoint entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais destiné à vérifier le respect du cessez-le-feu. Ce mécanisme vise à faire taire les armes et à ouvrir la voie à des discussions sur les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC. Cependant, sur le terrain, les combats se poursuivent dans certaines zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, accentuant les déplacements des populations et leurs souffrances. Plusieurs sources évoquent une phase qui devrait permettre d'avancer sur des questions de fond du conflit entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci beaucoup Martial Papimukeba. Juvenal Mounoubo Moubi, je rappelle que vous êtes avocat et cadre de l'HDC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Que pensez-vous de la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23?
Merci beaucoup Guy pour l'invitation et salutations aux autres intervenants avec moi, notamment prof Bob Kabamba et Placide qui interviennent avec moi dans cette émission. Eh bien, il était important de conclure ces pourparlers parce que le principe est simple. Quand on a commencé des discussions sur une question importante comme la question de la paix, eh bien, il fallait conclure. Et là, ça me permet de rappeler que le processus de paix à l'est du Congo a deux volets. Il y a le volet externe, c'est-à-dire le volet régional, qui est porté par Washington, l'accord de Washington de juin 2025. Et puis, il y a le volet interne, on peut dire ça, qui est Doha. c'est-à-dire des discussions directes entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. Parce que les volets régionaux, les volets externes, c'est entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda. Et vous avez vu que par rapport au volet régional ou au volet externe, on a plus évolué sur des questions économiques. Hein. Il y a les RIF, par exemple, les cadres d'intégration régionale économique. Et puis, il y a l'accord stratégique, les partenariats stratégiques entre la RDC, il y a beaucoup à dire, évidemment, entre la RDC et les États-Unis. Alors, ces deux textes, que ce soit l'accord de paix de juin 2025 et les partenariats stratégiques, sont en examen en ce moment à l'Assemblée nationale. On pourra y revenir parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et puis, cet accord de Washington n'a pas tellement évolué. Il y avait les CONOPS qui étaient en annexe, c'est-à-dire le plan d'action pour les plans d'harmonisation pour la neutralisation des FDLR, qui devait être actualisé parce qu'on devrait inclure aussi des aspects concernant les retraits des troupes rwandaises, comme prévu par la résolution 2773. Hein, du Conseil de sécurité, qui est une résolution très claire, parce que cette résolution demandait le retrait immédiat des troupes rwandaises qui sont confirmées, dont la présence est confirmée par plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Mais le processus de Washington n'a pas évolué dans le sens du retrait des troupes rwandaises. Il fallait actualiser les CONOPS, ça n'a pas été fait. Dernièrement, à Kisangani, le gouvernement congolais a pris l'engagement de désarmer les FDLR. On attend voir les résultats. Mais la difficulté, c'est que les FDLR, la plupart, se trouvent dans les zones occupé par les M23. Donc c'est une difficulté réelle, en dépit de ce que peut manifester comme, on peut considérer, bonne volonté de la part de Kinshasa. Alors, le volet interne...
Un point qui peut aussi faire l'objet, n'est-ce pas, des discussions en Suisse, pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas? Parce qu'en fait, les deux processus sont liés. On ne peut pas uniquement continuer à discuter sur les six autres protocoles. Vous avez cité des protocoles. Oui. Il y a les mécanismes de libération des détenus qui a été signé comme protocole, mais aucun détenu n'a été libéré. Et puis le cessez-le-feu qui a été signé, mécanisme, j'ai dit, mais aucun cessez-le-feu n'est observé sur terrain. Et après les deux protocoles, il y a six autres. Hein, notamment l'accès humanitaire. Hein. Il y a par exemple la question de l'aéroport de Goma. Il faut qu'on en discute en Suisse. Hein, c'est une urgence. La question de l'autorité, la restauration de l'autorité de l'État, cela est très important. La question de gouvernance participative. Pour la question de la restauration de l'autorité de l'État, il y a tout ça. Les banques qui doivent ouvrir. Il y a pas mal de questions. Libre circulation des personnes et des biens. Les avocats, les magistrats qui doivent bien faire leur travail, etc. Et puis, il y a un autre protocole qui doit être négocié là-bas, c'est le DDR. La question du DDR, on fait quoi avec le DDR? Il y a une autre question là-bas, identité citoyenne, mais il faut qu'on précise ce que ça veut dire, identité citoyenne, parce que la question de la nationalité...
Est-ce que le retour des déplacés internes et réfugiés?
Exact, c'est aussi un autre protocole. Alors, voilà des choses qui restent à clarifier à Doha, et ce n'est que normal, parce qu'il y a des personnes qui disent, mais pourquoi encore aller à Doha, et pourtant on discute déjà avec les Américains. Mais évidemment, avec les Américains, c'est quoi? C'est la question FDLR, c'est la question des retraits des troupes rwandaises, et puis c'est des questions économiques. On peut dire ça, hein? On peut résumer Washington par trois points. Mais alors, qu'est-ce qui reste alors des questions comme la M23? Donc, la logique voudrait qu'on finisse. Et puis, quelque part ici, c'est quand même l'honneur aussi des Américains, parce que vous avez vu que ici, quand on discutait à Doha, les Américains n'étaient pas vraiment à l'avant-plan. Mais ici, en Suisse, on voit vraiment la présence des Américains. C'est aussi une question d'honneur pour eux. Hein. Trump qui dit qu'il a fini plusieurs conflits au monde, notamment les conflits RDC, mais que les balles continuent à crépiter et qu'on n'aille pas conclure. On n'a pas encore conclu ces processus.
Justement,
il y a
l'implication des deux autres acteurs, donc les États-Unis, qui ne seront plus des simples observateurs, mais cette fois-ci, ils sont facilitateur, mais aussi la MONUSCO, hein, qui va jouer les rôles d'observateur. Alors, la participation de ces deux acteurs dans ces pourparlers pourrait avoir la capacité de faire avancer les choses, à votre avis?
Oui, parce que tout le monde le sait. Les États-Unis, c'est la grande puissance. Hein. Il faut le dire, il n'y a pas de honte à le dire. Et puis, ils nous accompagnent vraiment dans ce processus. Hein, et pas seulement pour des questions sécuritaires. Ils pensent aussi que l'économique pourrait bien garantir la sécurité. Et donc, c'est leur honneur, comme je le disais tantôt. Hein. Imaginez qu'ils disent qu'ils ont fini 8 foyers de conflits au monde. Et bon, on sait bien que les Moyen-Orient, il n'y a rien qui est résolu là. Et voilà qu'à l'Est, il n'y a rien qui est résolu. Et quelque part, c'est leur honneur. C'est pas seulement Trump, c'est toute l'administration américaine, le Congrès aussi. pays, c'est l'honneur de toutes les institutions américaines, du peuple américain. Et donc, on espère peut-être qu'ils vont exercer la pression. Déjà, c'est une bonne chose qu'ils aient exercé suffisamment de pression. Hein. Les dernières sanctions contre ces responsables rwandais, ça a été un signal fort. Mais que ça ne finisse pas par ça, il faut suffisamment de pression de deux côtés, de tous côtés, pour qu'on conclue au moins ces protocoles, que les cessez-le-feu soient observés sur terrain et que quelques indices ou quelques éléments de la restauration de l'autorité de l'État se manifestent. Il y a l'aéroport, il y a...
Justement, vous avez évoqué ces mécanismes sur lesquels les deux parties sont mis d'accord, notamment la surveillance et la vérification du cessez-le-feu, mais aussi les mécanismes de libération des prisonniers. Alors, pourquoi, à votre avis, les deux parties n'ont jamais, sont toujours restées réticentes pour mettre en application ces deux mécanismes?
Ils ne se font pas confiance. Elles ne se font pas confiance. Les deux parties ne se font vraiment pas confiance parce que si elles se faisaient confiance, eh bien, les cessez-le-feu devraient être respectés. Donc ça, c'est un premier élément de ma réponse. Un deuxième élément de ma réponse, c'est que les mécanismes ne fonctionnent pas. Parce qu'avant de signer le mécanisme des surveillances de cessez-le-feu en date du 14 octobre 2025, déjà il existait ce qu'on appelait mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, qui date depuis longtemps. Mais toutes les fois qu'il y a violation de cessez-le-feu, hein, parce que toute fois qu'il y a, chaque fois qu'il y a attaque quelque part, quand on dit voilà, on a pris tel village, ou il y a eu des combats à tel endroit, ou il y a eu des bombes qui sont tombées à tel endroit, eh bien ces mécanismes devaient être les premiers à nous dire qui a violé le cessez-le-feu. C'est très important, hein. On devrait arriver à ça. Mais ces mécanismes ne fonctionnent pas. Et même si la MONUSCO s'est joint à ces mécanismes, parce qu'il faut quand même ajouter ici que la MONUSCO est allée renforcer un peu ces mécanismes, c'est une bonne chose que son représentant adjointe ait effectué ses déplacements à Goma et puis à Uvira aussi. Hein. Donc la MONUSCO est là, mais sauf que ce mécanisme est là. Donc il y a un travail qui devait être fait par la CIRGL et par la MONUSCO, hein, qui n'est pas encore, jusque-là, n'est pas encore fait suffisamment. Et puis bon, c'est pas le travail de la MONUSCO et de la CIRG. C'est d'abord les partis qui devaient se faire confiance pour respecter le cessez-le-feu. Et même pour la libération des détenus, hein, le problème c'est qu'ils se mettent pas d'accord sur une liste, hein. Ils se sont jamais mis d'accord sur une liste, les nombres, dans quel cachot et tout et tout. Vous voyez un peu. Et pourtant, ça devait être depuis longtemps. Bon, ce n'est pas des choses négligeables parce que ça devrait renforcer la confiance entre les deux parties. On espère peut-être que cette fois-ci, ils vont vraiment capitaliser ce 9e round parce que ça fait quand même trop. 9e round de négociations, tenant en compte justement le fait que les populations souffrent. Et je crois que si Kinshasa a accepté d'y aller, ça ne devait pas être considéré comme une faiblesse, pas du tout. Moi, en tout cas, moi, j'ai encouragé qu'ils aillent conclure ce qu'ils avaient commencé. Et parce qu'on ne peut pas tout attendre pour dire, voilà, on a conclu la paix avec le Rwanda devant les Américains qui nous assistent, et voilà, on ne peut pas croiser les bras et attendre que tout vienne de Washington. Donc ça a été réaliste, à mon point de vue, d'aller en Suisse clôturer. Mais il faut vraiment clôturer pour cela. Mais est-ce qu'ils vont clôturer quand on voit la situation sur terrain, hein, on va y revenir, il y a lieu d'être sceptique quand même, voilà. Parce que les combats continuent, aucun détenu n'a été libéré. Est-ce que la rhétorique aussi, est-ce qu'il y a eu adoucissement des parts d'autres? Il n'y a pas que Kinshasa. Vous avez lu l'interview d'un jeune Afrique de Paul Kagame, ce n'est pas du tout doux, quoi. Donc, côté rhétorique aussi, les tensions restent vives. Et là, ça peut quand même rendre sceptiques les observateurs.
Merci, professeur Bob Kabamba. Vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Quelle est votre lecture de la reprise, n'est-ce pas, de ces négociations entre le gouvernement congolais et la CM23?
Merci beaucoup pour la question. C'est que lorsque on passe d'abord, avant de répondre à votre question, il faut passer par rapport à, d'abord à l'évaluation de ce qui a déjà été fait. Nous sommes au 9e round. Ça veut dire grosso modo, il y a déjà eu plus ou moins, quand on dit le 9e round, il faut compter le nombre de jours que ça comptabilise. Et donc on est quand même détruit quand même maintenant presque un an de discussion sur Doha, même si on est à Genève, mais c'est toujours Doha. Et en termes de résultats par rapport à 9 rounds, on peut dire qu'on est pratiquement nulle part. Parce que depuis que ça a commencé, on n'a pas du tout avancé. Et tout ce qui a été signé de différents niveaux, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet de ces différentes signatures. Et donc, on tourne en rond, on gagne du temps. On gagne du temps parce que c'est le procédé qui a été privilégié aussi bien par Kinshasa que par Goma. On n'est pas du tout dans une logique de négociation pour aboutir à un cessez-le-feu et aboutir à des discussions, une base de discussion pour ramener la paix et ramener les différents points qu'on a déjà évoqués, accès humanitaire, autorité de l'État, DDR, etc., etc., identité, relance économique et tout. Et donc, tout ça n'est que, on va dire, des paravents par rapport à ce qu'on appelle l'avidité. Les revendications sont différentes de l'avidité. Ça veut dire où clairement, ici, on n'est pas dans une logique de négociation. On est dans une logique de traîner uniquement par d'autres objectifs. Ces objectifs-là ne sont pas sur la table. Et quand on analyse froidement les perspectives, parce qu'on analyse froidement les communiqués des uns et des autres, donc ce processus de Genève n'est qu'un paravent qui va cache les véritables objectifs et de Kinshasa et de Goma.
Et si, comme vous le dites, les deux parties sont en train de jouer sur les temps, ça peut être avec quel objectif, professeur Bokabamba?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, ça veut dire quoi? Au niveau de Kinshasa, nous sommes en 2026. En étant en 2026, nous devons avoir des élections en 2028. Donc on est déjà en octobre, pratiquement au mois d'avril, on est au mois d'avril 2026. Les prochaines élections sont censées s'organiser en décembre, enfin, s'organiser pour qu'il y ait des résultats en décembre 2028, pour respecter, on va dire, le délai constitutionnel. Or, par rapport au calendrier, par rapport à la feuille de route de la CENI, qui a été publié par la CENI elle-même, et lorsque j'ai lu le communiqué venant de la CENI elle-même, en fonction de ce calendrier, en fonction du retard qui a été constaté, donc on peut mettre une croix sur 2028. Alors si on met une croix sur 2028, il est impératif d'avoir un motif, une justification par rapport à la population, pour l'expliquer pourquoi on n'a pas respecté le délai de 2028. Alors la réponse sera très simple, parce que tout simplement, il y a le problème de l'Est avec les discussions qui s'ensuivent.
Et si, ça pourrait être ça l'objectif du gouvernement, et ça pourrait être quoi l'objectif de la rébellion?
Justement, en jouant tous les temps. Je vais vous dire. Alors, c'est ce que je vais vous dire, parce que du côté de la rébellion, je vais vous passer en revue. La rébellion, aujourd'hui, contrôle plus ou moins entre 50 et 60 000 km² de superficie à l'est du Congo. Et ils gèrent plus ou moins entre 10 000 et 12 millions d'habitants dans cette surface. Donc, ils sont dans une dynamique d'étatisation de la zone qui est contrôlée. Quand on est dans une zone d'étatisation, vous avez besoin de temps pour consolider votre étatisation. Alors, pour pouvoir consolider votre étatisation, vous avez besoin de temps pour pouvoir continuer à former les gens, continuer à avoir une économie, continuer à financer, etc., continuer à mettre un mécanisme qui est progressivement de plus en plus accepté. Et le fait même qu'au niveau de Genève, qu'on a les États-Unis, qu'on a la MONUSCO et qu'on a d'autres, ça veut dire grosso modo que la rébellion est en train d'être légitimée dans sa place, dans l'espace politique, non seulement interne, mais aussi dans l'espace politique international. Par ailleurs aussi, quand vous lisez quand même les différents communiqués de la rébellion, vous allez vous rendre compte que la rébellion compte aujourd'hui, par rapport aux estimations de mon centre de recherche, nous sommes non pas à 38 000, nous sommes à 42 000 hommes formés militairement. Vous avez 42 000 hommes formés militairement, je suis désolé, vous ne les formez pas pour rester dans l'espace de 60 000 km². 60 000 km², vous n'avez pas besoin de 50 000 hommes pour assurer, entre guillemets, la gestion étatique. Vous avez besoin de pouvoir continuer à avancer et consolider d'autres espaces pour pouvoir arriver véritablement à avoir l'espace. Donc, Genève, oui, c'est lié à la pression au niveau international, mais les deux, Goma, Kinshasa, ne sont pas dans la logique de négociation, sont plutôt dans la logique de gagner du temps par rapport à des objectifs qui ne sont pas la négociation et la paix.
Professeur, l'implication des États-Unis en tant que facilitateur cette fois-ci, et ainsi que celle de la MONUSCO en tant qu'observateur, si cela peut crédibiliser davantage ces négociations, pourrait-elle amener les deux parties à être disposées, n'est-ce pas, à se faire mutuellement des concessions en vue d'avancer rapidement?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, on parle beaucoup de Washington, les accords de Washington, etc. Pour au jour d'aujourd'hui, où nous sommes en train de faire le débat, ces accords n'existent pas au Congo.
ces accords n'existent pas au Congo pour la bonne et simple raison que ces accords ne sont pas ratifiés.
Ils ont été ratifiés par les parlements hier.
Ah, je m'excuse, alors je ne me suis pas à jour.
Ils ont été ratifiés par les parlements hier.
Non, j'ai suivi que le Parlement a décidé que les accords sont recevables.
Voilà, recevables, c'est ça l'information.
Oui, excusez-moi. Donc j'ai raison. Et donc, recevabilité ne veut pas dire ratification. Je reste dans ma position, monsieur Kibaté. Donc, au jour d'aujourd'hui, même si ça a été validé, il faut que ça soit promulgué. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ces accords n'existent pas. Le Congo n'est pas tenu par des obligations par rapport aux accords de Washington. Ça n'existe pas. Et donc, juridiquement, valablement, ce n'est que, encore une fois, des paravents. Que c'est lorsque l'on essaie d'être logique, de réfléchir, de voir par rapport à toutes ces dynamiques, la présence de Washington par rapport aux accords de Washington, je viens de vous dire que ça n'existe pas parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre juridique congolais par rapport à ce qui a été accepté lorsque le gouvernement congolais a signé ces accords. Et donc, par rapport à la MONUSCO, il faut bien se rendre compte de quoi on parle. La MONUSCO, elle est présente où ? Elle est présente au Nord Kivu et à Ituri. Elle n'est pas présente au Sud Kivu. Et aussi, la MONUSCO, elle est dans ce qu'on appelle dans la phase de désengagement du fait des restrictions budgétaires liées aussi aux États-Unis qui ont diminué leur financement aux Nations Unies. Et la première mission, une des premières missions qui est impactée par la diminution de financement américain, c'est la MONUSCO. 25% du financement de la MONUSCO venait des États-Unis. Les États-Unis, quand ils diminuent leur financement des institutions de l'ONU, pas que l'ONU, pas que, etc., vous suivez l'actualité. Et donc, la présence de la MONUSCO n'est pas nécessairement une espèce de plus-value qui va amener une pression, alors qu'elle est en phase de désengagement, et personne, aussi bien au niveau européen, au niveau international, n'est en mesure de pouvoir suppléer le manque de financement de la MONUSCO. Alors je vais même rajouter encore une autre dimension. Les pays, beaucoup de pays qui étaient contributeurs de troupes dans la MONUSCO, actuellement, se désengagent parce qu'ils ont des problèmes ailleurs, des problèmes aussi dans leur propre pays, et qui fait en sorte que la MONUSCO, progressivement, est en train de devenir une coquille vide.
Mais la présence de ces deux acteurs dans les négociations de Suisse en Genève, est-ce que ça ne peut pas faire accélérer
les choses? Non, c'est du paravent. Ce n'est que du paravent. Ça, c'est ce qu'on appelle. Ce n'est que la revendication. Ce n'est pas l'avidité. L'avidité, ça veut dire, ce sont les objectifs principaux. Là, on n'est que dans servir l'opinion publique. Mais dans le fond, il n'y a pas de progrès. Merci. Je peux même vous illustrer ça. On a signé les accords liés à la question liée au cessez-le-feu, mettre en place des mécanismes, etc. Où est-ce que ça en est? Zéro. Parce qu'il n'y a pas de financement par rapport à mettre en place ces différents systèmes, on n'en est nulle part. Deuxième élément, on a signé pour les questions de libération des prisonniers. Où est-ce qu'on en est? Zéro. Et quelle est la suite? Il n'y en a pas. Et donc, on continue, ce n'est que de paravent, et qu'ils n'arriveront pas à pouvoir arriver à apporter des solutions pour les populations du Nord Kivu, pour les populations du Sud Kivu, et qui sont dans une dynamique de souffrance, et qui sont abandonnés, qui se sentent abandonnés, aussi bien par Kinshasa, par Goma, mais aussi par tous les systèmes internationaux, et qui doivent se débrouiller.
Merci Placine Zilamba, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Et comment vous réagissez à la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC-M23 en Suisse?
Pour nous d'abord c'est une surprise, parce que tout simplement parce que on y a mis fin. Imaginez-vous, on nous dit qu'on est au 9e
round.
On dirait que c'est un jeu de boxe ou c'est quoi. Donc c'est étonnant de voir un problème qui dure 30 ans aujourd'hui, mais les gens spéculent sur la solution. Et ce genre de tâtonnement dans la recherche de la solution, nous pensons que ce sont des erreurs fatales qui jettent déjà le discrédit sur ce qui s'est fait. Est-ce qu'on statue sur le vrai problème? Ou qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on comprend qu'il y a une population qui est meurtrie du jour au jour? Est-ce qu'on a l'intention de faire la paix? Ce sont ces questionnements devant lesquels nous sommes et nous nous disons, au lieu de gaspiller tout le fond dans ça, je crois qu'il faut imaginer d'autres solutions en dehors de cela, parce que c'est une distraction. Ça, je vous dis. 9e round.
Quelles sont les solutions qu'il faut imaginer?
Non, il faut bien étudier les intérêts. Il faut bien étudier les intérêts et savoir les répartir.
Voilà. Il y a protocole, n'est-ce pas, contenu dans l'accord cadre qui a été signé entre les deux parties. Et parmi les huit protocoles, deux ont été, n'est-ce pas, validés par les deux parties, mais ils n'ont jamais été mis en application. Comment vous comprenez cela? C'est notamment les mécanismes de surveillance et de cessez le feu, ainsi que les mécanismes de libération des prisonniers.
Non. Vous-même, vous le dites. C'est ça notre étonnement. Ils se disent des choses qu'ils ne respectent jamais. Alors, à notre niveau, à quoi bon continuer avec de telles discussions? Même ceux-là qui pressent les gens à y aller. Peut-être que ça sera la dernière fois d'y aller et ils vont nous revenir avec un accord qui privilégie la paix. Et s'ils ne trouvent pas cet accord-là, je crois qu'y aller, ça deviendra comme quelque chose qui n'intéresse plus cette population. Et j'étais même la population dans les mois et l'oubli de la paix. Donc, pour nous, c'est dire. On doit quand même, à un moment, et la communauté internationale, vous savez que l'aboutissement des processus de paix, selon moi, évolue ou aboutit, il est aussi fonction des capacités du médiateur. Il faut tenir compte de ça. Si le médiateur est un peu foutu, ne pèse pas, en tout cas les partis vont se jouer de lui. Et que donc, si c'est
possible. Et dans le cas d'espèce, comment vous jugez les médiateurs?
Non, il est foutu. Il est foutu, il faut le dire. Il faut le dire.
Foutu pourquoi?
Parce qu'il n'y a rien. Rien d'accord, rien de concret.
Et maintenant que les Américains s'impliquent en tant que facilitateurs et la MONUSCO en tant qu'observateur, est-ce que les choses ne pourraient pas changer?
Effectivement, il y a une comparaison. Pour dire, les États-Unis sont venus dans le dossier quand le dossier était déjà au Qatar. Mais aux États-Unis, on a déjà un accord qu'on est en train d'entamer la procédure de ratification ici, chez nous. Mais le Rwanda a déjà ratifié l'accord, une partie de l'accord. L'accord entre le Rwanda et la RDC, le Rwanda l'avait déjà ratifié. Et que donc, il y avait aussi un retard chez nous. Nous pensons qu'ici, on devait avancer vite pour que cet accord de Washington-là soit appliqué et qu'on voie où on va aboutir. Ça, c'est plus concret que ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Dire de va et vient seulement sans. Donc le Qatar n'est pas à la hauteur du dossier.
Ah oui, mais comment vous répondez à la réflexion de Mounoubo qui pense que, en plus de ce qui a été fait à Washington, il faut aussi, n'est-ce pas, tenir compte de ces volets internes qui sont en discussion, n'est-ce pas, en Suisse?
Bon, ça, ce n'est pas le volet interne total, parce que le volet interne est plus large. S'il faut dire le volet interne, il y a d'autres aspects internes qui devait être discuté là-bas. Et là, ils discutent le fisc entre protagonistes. Mm-hmm. Mais les victimes de ces conflits, où sont-elles? Est-ce donc, qu'on tient compte de l'air désidérata?
Vous êtes d'avis, comme le disent les opposants aujourd'hui, qu'on doit élargir, n'est-ce pas, les discussions à tous les acteurs?
Effectivement, parce que les victimes ne sont pas là. Parce que la donne de la victime peut-être donner au parti une mesure des actes qu'ils peuvent poser. Mais aujourd'hui, ils sont là entre eux, et vous voyez combien on est au 9e round. On risque d'arriver même au 100e round dans ces histoires-là. Donc, nous pensons que si le Qatar ne sera pas à la hauteur, de passer le dossier à un autre facilitateur qui a plus de la capacité à bien conduire les dossiers.
Merci. Donc on va donner maintenant l'occasion aux auditeurs qui sont en train de vouloir donner leur point de vue par rapport à cette question. Honorable Mounoubo Moubi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis la ville de Butembo, au Nord Kivu, et ses promesses Matofali. Voilà.
Promesse Matofali depuis la ville de Butembo. Vous savez, avec la reprise en suite des négociations de Doha entre le gouvernement et l'AFCM 23, pour nous c'est une perte de temps. À l'issue des négociations qui se sont suivies, on trouve ces déclarations qui sont presque superficielles et ça ne touche même pas les fonds. Et la guerre continue sur terrain, la population continue à souffrir, fermeture des banques à Goma, à Bukavu, la fermeture de l'aéroport de Goma, l'inaccessibilité des documents officiels, la méfiance entre les voyageurs qui quittent Goma pour aller par exemple à Butembo, qui sont soupçonnés à raison ou à tort d'être à connivence avec le M23, le paiement de 3,5% pour les retraits des devises dans les zones contrôlées. Vous voyez, avec tout cela, c'est la population qui continue à souffrir. Mais les deux parties, on ne sait pas s'ils voient la souffrance de la population du côté du gouvernement congolais. En tout cas, nous sommes fatigués.
Maître Juvenal Mounoubou-Moubi.
Alors, je pense qu'il faut dire une vérité. Une vérité, c'est qu'on doit faire des efforts dans la communication gouvernementale. J'ai comme l'impression que c'est notre gouvernement, hein, mais le gouvernement devrait mieux communiquer sur certaines choses, notamment sur le processus de Doha. Parce que justement, j'ai constaté qu'il y a eu plus de communications sur Washington, hein, c'est-à-dire l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025, et puis bon, tout ce qui est aspect économique, les cas d'intégration économique régionale, partenariat stratégique et tout, et vraiment moins de communications sur Doha.
Est-ce que ce n'est pas Washington qui semble arranger le gouvernement par rapport à Doha?
Ce qui devrait arranger tout le monde, et le gouvernement, et ceux qui combattent le gouvernement, et d'abord la population, ce qui devait arranger tout le monde, la région des Grands Lacs, ça devait être la paix, quoi. Ce qui peut nous amener à la paix. Mais qu'est-ce qui nous amène à la paix? Est-ce que c'est le réchauffement des relations avec Washington qui nous amène à la paix? Pourquoi les gens sont surpris qu'on rentre sur Doha? Justement parce que cette communication n'a pas été la plus claire possible. Il fallait vraiment le dire. Les questions que pose M. Matofa, les promesses, la question des banques, la question de libre circulation de personnes et tout, mais c'est l'un des protocoles qui devait être négocié, non? C'est le quatrième protocole qui concerne
l'accès humanitaire.
Voilà, et restauration de l'autorité de l'État. L'aéroport, c'est accès humanitaire, évidemment, Guy, vous avez raison. Le problème, c'est qu'au départ, il n'y a pas eu une communication complète. Je sais, les gouvernements communiquent bien, mais ils devaient faire mieux et surtout clarifier tout ce qui concerne Doha. Alors, c'est pourquoi les gens pensent que tout était clos, parce qu'on avait vraiment l'impression que tout était clos. Et donc, on est surpris, je parle de la fameuse surprise de Placide Zikama, de constater qu'on rentre encore à Doha pour discuter. Mais si les choses étaient clairement expliqué à la population, eh bien, on ne serait pas surpris. Parce que c'est important de conclure, justement, ce processus. Je suis d'accord avec M. Zikama que les volets internes, ça ne devrait pas se limiter uniquement au M23, parce qu'évidemment, les volets internes, c'est aussi les groupes armés locaux, les Maïmaï et tout, hein. Maintenant, on les appelle Ouazalendo. En Ituri aussi, on parle moins de l'Ituri avec Codeco et tout ça, les gens souffrent là-bas. Tout ça, c'est les volets internes. Alors, les volets internes, c'est les opposants aussi qui se disent qu'ils sont... qui se disent combattre le gouvernement, hein, et l'ancien président Kabila. Tout ça, ça fait partie du volet interne.
Alors, les meilleurs formats par rapport à ces volets internes, ne serait-il pas ces dialogues nationaux qui est, n'est-ce pas, prôné par beaucoup de gens?
C'est une bonne chose. On n'est peut-être pas très nombreux à les dire, à les penser ainsi, mais le problème, c'est l'échéancier. Comment mettre ça dans l'échéance? Si on commence maintenant là les tractations pour un dialogue interne inclusif, et si l'on verse les questions de Doha dans le cadre d'un dialogue national inclusif, parce qu'à un moment donné, on a pensé le faire, quoi. À Luanda, quand vous voyez, on s'activait à Luanda, l'idée c'était qu'on arrive à faire une sorte de jonction, qu'on verse tout ce qui n'a pas marché à Doha dans le cadre d'un dialogue inclusif. Mais le problème c'est que ça demande du temps pour arriver là. Il faut accréditer les gens, d'abord se mettre d'accord sur le lieu, quoi. Est-ce que c'est Luanda, est-ce que c'est Kinshasa? Mais il faut aussi faire attention que, en traitant du volet interne, que ça ne se réduise pas à un partage du pouvoir. Ou à un repositionnement à ceux qui veulent rentrer au pouvoir. Il y a toutes ces questions-là. Raison pour laquelle, moi, avec ma petite expérience, moi, je conseille ceci. Je conseille deux choses, au fait. Je conseille qu'on conclue Doha. Il n'y a pas de honte à le faire, parce que La responsabilité lorsqu'on on dirige, c'est aussi ça, de ne pas...
Conclure, Doha, comme vous voulez.
Et puis après...
Il y a des personnes, hein, de plus en plus de personnes qui pensent que les 6 protocoles qui sont restés en suspens ne sont pas favorables au gouvernement congolais. C'est pourquoi ces personnes pensent que le gouvernement congolais devrait soit renégocier ces 6 protocoles qui sont restés sans réponse, ou carrément, n'est-ce pas, les rejeter. Comment vous réagissez à cet argument?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. C'est vrai, en lisant les autres protocoles, il y a un protocole qui semble intéresser beaucoup plus quand même l'M23 ou les revendications du M23, c'est le protocole 4 sur l'identité citoyenne, hein, qui à mon avis n'est pas très clarifié, parce que moi je pense que la question de la nationalité a déjà été précisée par l'article 10 de la Constitution et la loi sur la nationalité. Vous voyez un peu, repère 1960, tout ça. Alors, mais il y a des questions qui intéressent, toutes les autres questions intéressent Kinshasa, la question du retour des déplacés. Est-ce que Kinshasa n'a pas intérêt au retour des déplacés? Il n'y a pas, hein, même si on ne parle pas des réfugiés, des déplacés, ça fait partie. Réouverture des aéroports, des banques et tout ça, hein, ça fait partie, ça intéresse Kinshasa. Hein, déclarer cette zone, état d'urgence humanitaire. Ouais, donc il ne faut pas qu'on pense que l'Est est séparé de Kinshasa, l'Est reste lié. Hein, le pays est unique, hein, un seul pays malgré tous ces soubresauts. Et donc je ne pense pas que ça concerne uniquement la M23. Il y a des aspects qui concerne évidemment, qui concerne tout le monde, quoi. Qui concerne Kinshasa, qui concerne tout le monde, quoi. Raison pour laquelle on ne doit pas minimiser, c'est tout un travail qui a été fait, il faut conclure.
Merci.
Et puis, on n'y va pas là-bas pour donner raison entièrement au M23. C'est pas pour rien qu'on a une délégation. Vous avez cité les chefs de délégation de Kinshasa. Dans une discussion comme ça, eh bien, il faut, d'abord, il faut se mettre d'accord sur des choses qu'il faut, à ne pas, comment dirais-je, hypothéquer. Hein, c'est l'intégrité territoriale, c'est la souveraineté de la RDC. Et puis il y a des concessions qu'on fait, quoi. Et puis il y a des lignes rouges qu'on se place aussi. C'est ça la logique des négociations. Mais tout rejeter, c'est irresponsable. Ça ne serait pas très responsable.
Merci, professeur Bokabama. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, Jean Rosny.
Jean Rosny, Kinshasa. Ce 9e round est une suite du processus qui a commencé à Doha et ne doit pas être isolé de la réalité de ce conflit, parce que tous les éléments sont déjà réunis, que c'est le régime de Kigali qui utilise et dote le moyen, le M23, et par conséquent c'est une agression pure et simple dont la RDC est victime. La reprise de ce processus ne doit pas empêcher les Nations Unies à faire appliquer les résolutions, notamment la résolution 2673 et 2808. La reprise des négociations doit prendre en compte la souffrance des populations dans les zones occupées par les rebelles. Et les facilitateurs ne doivent pas se plier aux caprices des partis antagonistes, particulièrement les rebelles. Le couloir humanitaire devait être parmi les urgences, quelles que soient les enchères montées par les rebelles en relançant les affrontements sur terrain, tentant de congoliser la délégation qui est à Genève. L'État congolais ne doit pas dépasser la ligne rouge.
Professeur Bokabamba.
Alors, beaucoup de préoccupations de l'auditeur et beaucoup de questions. Doha, la question par rapport au Rwanda a déjà été pas résolue et traitée à Washington. Et donc, clairement, si on est allé au processus de Doha, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une dynamique quand même congolo-congolaise dans cette rébellion, au-delà de l'implication du Rwanda qui est déjà pas là. Ça veut dire qu'au niveau international, on a scindé les choses en deux. On a accepté effectivement que le Rwanda soutient la rébellion et qu'il est important de pouvoir arriver à régler la question entre Kinshasa et Kigali. Ça, c'est Washington qui le fait, mais il ne le fait pas pour les beaux yeux des Rwandais, ni pour les beaux yeux des Congolais, mais il est fait par rapport à ses intérêts que nous tous nous connaissons sans ambiguïté, que ces différents accords qui s'est fait au détriment de la population congolaise. Donc ces accords-là, par rapport à ce qui se passe avec la Chine et le reste, et avec l'Europe qu'on a toujours dénoncé, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Donc ici, la question c'est liée à Doha, sans l'implication du Rwanda, pour la bonne et simple raison que ça a déjà été réglé au niveau international. Alors ici, la question de la mise en œuvre des résolutions, oui, la mise en œuvre des résolutions, le respect des lois internationales, nous savons tous lorsque nous en sommes par rapport au respect des lois internationales, on voit très bien ce qui se passe avec Israël, on voit très bien ce qui se passe avec les États-Unis et avec le conflit avec l'Iran. Les dernières observations, et on a même dans les débats où nous sommes en train de parler, on est en train de tuer l'ONU, on est en train de tuer le système international de régulation internationale est en train de de mourir, et à cela vous ajoutez aussi les problèmes liés au droit maritime qui est en train d'être bafoué, et donc clairement demander à la communauté internationale d'appliquer des résolutions qu'eux-mêmes n'appliquent pas et que ce soit nous qui les appliquons au niveau du Congo ou au niveau des pays africains, cela me semble un peu utopique. Pour revenir justement sur la question de la congolisation, oui, Doha reconnaît une congolisation des problèmes liés au Congo. Alors là aussi, il y a quand même beaucoup de questions en termes d'agencement. Quand je dis agencement, ça veut dire que les différents processus que l'on connaît, ces différents processus ne sont pas agencés dans un calendrier et dans une mise en œuvre où on voit une clarté. Doha a sa logique. Doha, maintenant, ça devient Genève. On a Luanda qui a été mise en œuvre avec l'appui du gouvernement congolais. On ne sait pas où ça en est parce que tout simplement, il y a eu toute une série de consultations dont la rébellion a été consultée par Luanda, et on sait bien que nous avons tous lu la lettre de la réponse de la rébellion à Luanda avec les conditionnalités qui se sont posées, aussi en disant dans ce qu'on va faire à Luanda, quelle est la place de Doha. C'est pas terminé, on a Doha à Genève, on a Luanda. Et maintenant, nous avons aussi Lomé. On a oublié Lomé. Lomé avec la nomination de toute une série de gens qui sont censés travailler et mettre en œuvre tous les différents processus liés au Congo. Et puis, vous avez d'autres processus. Alors, lorsque vous mettez ça dans la mise en œuvre, l'applicabilité et ce qu'on appelle l'échéancier, vous allez vous rendre compte que nous tournons en rond. On n'en est nulle part. Et comme on n'en est nulle part, je reviens à ce que j'ai dit dès le départ, que nous ne sommes pas dans les revendications, nous sommes dans l'avidité. Les revendications, c'est ce qui est dit par les différentes délégations, les revendications. Mais l'avidité, c'est ça véritablement, ce que les uns et les autres cherchent. Uniquement gagner du temps par rapport aux objectifs que les uns et les autres ont. Et je ne serais pas étonné que d'ici quelques jours, quelques semaines, puisque au niveau du terrain, nous lisons tous les différents communiqués, nous lisons tous les agents de presse, où on nous dit qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, il y a toujours des combats. Et dans ce cadre des combats, depuis qu'on a commencé, on n'a jamais vu que l'armée congolaise est arrivée à faire quelque chose, à récupérer, quoi que ce soit. Et donc nous sommes toujours dans la même logique, et que j'imagine que si à un moment donné que la rébellion décide de pouvoir avancer vers Kisangani ou bien vers Kalemi, ça veut dire ouvrira Kalemi, etc. et tout ça, ils le feront et ça ira, et que le coffre-fort va tomber. Ça, c'est le coffre-fort, ça veut dire le Katanga. Et là, clairement, c'est ça. Et que tout ce qui est en train de se passer comme discussion, analyse, etc., ce n'est que des paravents. Le fond, on le connaît.
Merci.
On n'a pas besoin de pouvoir interpréter.
Merci. L'honorable Mounoubo veut réagir, n'est-ce pas, au propos. On va donner la parole à Placine Dinamba. Mais oui, vous voulez dire quoi?
Je ne suis pas totalement d'accord avec professeur Bob Kabamba. Lorsqu'il dit qu'il y a des avidités, hein, c'est le terme qu'il a utilisé.
Il n'y a pas de revendications, mais plutôt c'est de l'avidité.
De l'avidité. Et là, il a parlé de ne pas organiser, par exemple, des élections. Donc, faire gagner le temps, hein, ça profiterait à Kinshasa. Mais
à moi, toutes les parties.
Oui, mais moi je pense, en tout cas, ça ne profiterait pas à Kinshasa, n'est pas organiser les élections. Pourquoi? Parce que si la paix est restaurée à l'Est, évidemment, ce serait dans l'actif du président Tshisekedi. Ça serait dans l'actif du régime en place. Et même si Tshisekedi n'est pas candidat, j'ai dit même s'il n'est pas candidat, évidemment, ça serait dans son actif que voilà, les pouvoirs à Kinshasa a pris des bonnes décisions, notamment conclure un processus de paix qui permet le retour de la restauration de l'autorité de l'État. Et donc, ce qui, parmi les avidités ou parmi les paravents dont il a parlé, ce qui apparaît plus clair, c'est l'administration parallèle qui est installée à l'Est. Ça, c'est beaucoup plus clair que l'intention, une certaine intention de Kinshasa de gagner le temps pour ne pas organiser des élections. Et moi, je crois que si on met les deux sur une balance, on se rend compte, et lui-même, professeur Bob Kabamba, se rendra compte que ce qui apparaît beaucoup plus évident, hein, c'est la question de rester dans cette partie de l'Est. Et il y a des termes qui nous viennent de l'Est maintenant. Parfois, on parle parfois
au maintien du statu quo.
Voilà, on nous parle parfois de soudanisation. Je voudrais même lui poser la question, Bob Kabamba, est-ce que soudanisation, ça veut dire étatisation? Lui, il a utilisé le terme étatisation. D'autres parlent des risques de balkanisation. Voyez un peu. Donc, moi, je crois qu'il faut nuancer et ne pas prêter attention directement à Kinshasa. Il y a des questions pour lesquelles nous nous sommes assez regardants, évidemment. Et on voudrait bien qu'il y ait un débat objectif interne, évidemment, comme la question de la révision de la Constitution. Vous voyez un peu. Mais il y a, on ne peut pas soupçonner Kinshasa, hein, lui accorder une, hein, mettre sur sa tête une intention de ne pas organiser des élections.
Merci.
Surtout que le succès des, si la paix revient à l'Est, évidemment, ça serait le succès du gouvernement congolais.
Merci, Platine Zilamba. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani. Dans la Tchopo, c'est Jacques Befonga.
Jacques Befonga Malomalo, depuis Kisangani, province de la Tchopo. La reprise des négociations à Genève entre Kinshasa et la FCM 23 ressemble davantage à une mise en scène d'intérêts croisés qu'à une volonté réelle de paix. D'un côté, un gouvernement congolais qui négocie avec des acteurs dont plusieurs étaient hier encore dans ses propres rangs. Les revendications mutuelles sont devenues illisibles et diluées dans les rebondissements des rôles. Derrière les langages diplomatiques, ce sont des agendas géostratégiques qui se jouent pendant que le combat continue d'estimer nuit et jour les civils. Pire, le silence est assourdissant sur les dialogues intercongolais pourtant promis par le président de la République et réclamé par la population et la société civile, laisse croire à un complot d'immobilisme pour maintenir la crise à leur faveur. Il est temps de sortir de ce théâtre diplomatique pour imposer une solution nationale souveraine centrée sur les victimes.
Platine Zilamba.
Effectivement, il y a lieu qu'on se dise en face avec le gouvernement pour dire quelle est la solution maintenant.
Et pour vous, de la société civile, c'est quoi la solution aujourd'hui? Parce que vous semblez dire que Doha, vous savez que ce n'est pas census maintenant, ne sert à rien. C'est quoi la solution pour vous?
L'État doit s'assumer en tant qu'État avec tous ses attributs.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, l'État a l'armée, hein? L'État a des capacités de négociation. L'État a tout à donner pour rétablir la paix et la sécurité. Donc, l'État a le moyen pour rétablir cette paix et cette sécurité. Et donc, il faut les utiliser pour que cette paix et sécurité revienne. Donc, il n'est pas question de dire que, bon, qu'est-ce que... Non, l'État a déjà tout en tant qu'État. Et que donc, laisser l'État se faire traîner dans des réunions qui ne produisent pas, je crois que c'est aussi toléré beaucoup. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà et comprendre que peut-être ce schéma n'avance pas.
Oh, quel est... aller au-delà, c'est utiliser la force, c'est ça?
C'est utiliser tout ce qu'on a pour ramener la paix.
Qu'est-ce qu'on a à part le fait de négocier, à part
non, la force sur le terrain? Il y a beaucoup.
La diplomatie.
Il y a beaucoup qu'on a. Mm-hmm. Nous avons tous les attributs de l'État, comme je vous ai dit. Nous avons l'armée. Mm-hmm. Vous savez très bien qu'il y a une armée qui s'appelle le FARDC. Une armée aussi qui... Nous avons des amis qui peuvent nous aider, non? Nous avons des relations avec d'autres États qui peuvent nous aider. Nous avons le moyen pour cette politique-là. Et que donc, pour nous, ce n'est pas dire qu'il faut rester cloué sur une même solution.
Mais la société civile ne tient pas compte des conséquences d'une telle approche, une approche militaire?
Non. Vous savez...
Les conséquences sur la population civile.
Même à ce moment, même à l'heure où ils se parlent, les gens sont en train de mourir. Ça, je vous l'ai dit. Rien n'a stoppé. Les gens sont arrêtés arbitrairement, je crois, l'un des autorités l'a dit. Et que donc, si les jets d'intérêt durent, il y a aussi à perdre de crédibilité pour l'État. Et que donc, l'État doit tout faire pour s'assumer en tant qu'État et convaincre sa population que c'est nous qui gouvernons. Et donc, pour nous, c'est dire, vous savez, l'M23, comme on vient de le dire ici, a besoin que ces histoires-là durent, qu'ils perdurent, qu'ils restent là-bas. Lui n'a pas besoin d'autre chose. Vous comprenez, même si le prof a dit ici que non, l'intention sera d'aller à Calémie, non, non, non. Moi, on connaît d'avance beaucoup de choses. Et pour eux, là, en tout cas, c'est déjà la zone où ils se trouvent un peu dans leur bonheur. Et que donc, pour nous, c'est de dire, il faut tout mettre en œuvre pour les ravir cette zone-là. Et non, c'est laisser, papa.
Et tout donc, en est dans une vous êtes sceptique quant à ce qui concerne Doha.
Même le fait de changer les noms. Du lieu. Moi, je changeais même les liens. Donc, c'était le processus de Doha. On l'appelle aujourd'hui processus de quoi?
Non, c'est toujours le processus de Doha, mais qui se tient en Suisse non. À cause de la situation sécuritaire.
Vous voyez que même notre problème est transféré même ailleurs. Et que donc, pour nous, c'est dire, il faut la responsabilité. Pour moi, la solution, c'est de dire, si Qatar trouve que le dossier est plus pesant que son poids, en tant que médiateur, de les transférer auprès d'autres.
Ça, c'est la position de la société civile.
Oui.
Nous sommes presque à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Hein. Professeur Boubka Bamba, comment vous entrevoyez justement les déroulements de ces négociations qui ont commencé depuis hier en Suisse?
Merci beaucoup. Donc, je vais quand même revenir sur la remarque de collègue de l'AFC, pour l'AFDC plutôt, pour dire clairement que je reste sur ma position claire. Oui, Kinshasa a intérêt à ce que les élections ne marchent pas, pour la bonne et simple raison que Kinshasa est incapable de ramener la paix à l'est du Congo. On l'a déjà remarqué depuis que la guerre a commencé, il n'y a pas eu de suite de ce côté-là. Et pour pouvoir s'en sortir, il est impératif, c'est que pour Kinshasa, par rapport à la pérennisation du régime, de ne pas organiser les élections comme ça le régime persiste. Ce n'est que ça, l'avidité de Kinshasa. Il y a aussi autre chose, puisque en poursuivant la guerre, ça veut dire aussi que le système de prédation qui existe, achat d'armes, paiement des militaires, paiement des soldes, etc., vont dans un système de prédation qui enrichit certaines personnes à Kinshasa et qui s'en sortent, qui n'ont aucune envie que le système-là s'arrête et qu'on va aller toujours dans le même système. Malheureusement, c'est ça la réalité. Le nier, ça serait vraiment se cacher par rapport à cette situation. La suite des événements des accords de Genève, je vous le dis, et on reviendra peut-être dans une semaine, dans deux semaines, il n'y aura rien. Ensuite, il faut savoir que les délégations qui sont présentes à Genève, ce n'est pas des délégations décisionnelles. Ça veut dire que ce qui va être négocié ne peut pas être considéré comme des acquis, parce qu'il faut qu'il y ait un processus de consolidation et d'acceptation des institutions pour que ces décisions soient valables. On a vu que Washington n'existe pas, les autres décisions n'existent pas, tout ce qui a déjà été négocié n'a pas été mis en œuvre, n'existe pas, et donc la suite de Genève sera toujours dans la même logique. On va signer, mais ça n'existera pas, parce que ça sera signé uniquement sur le papier, mais que ça puisse exister véritablement pour que ça soit mis en œuvre, ça n'existera pas. Et donc, on signe des papiers qui ne servent à rien et qui ne vont pas apporter la paix, qui ne vont pas apporter le bonheur aux populations qui souffrent dans le nord et le sud Kivu, qui n'ont pas d'argent, les banques sont fermées. Et puis, sur le processus d'étatisation, quand je vous l'ai dit, étatisation, les gens qui doivent quitter Goma, Bukavu, Walikale ou je ne sais pas où, pour aller à Butembo, utilisent quels papiers? Ils utilisent les papiers de la rébellion. Et ils passent où? Ils passent à l'Ouganda. Et l'Ouganda accepte ces papiers-là. Ils vont en Tanzanie. La Tanzanie accepte ces papiers-là. C'est un processus d'étatisation. Il n'y a pas d'argent.
Okay.
Les gens cherchent des solutions.
Merci.
En cherchant des solutions, c'est ça un processus d'étatisation.
Merci, Juvenal Mounoumoubi. Vous allez aussi conclure. Hein. Ça pourrait être quoi les scénarios si ces négociations n'aboutissent pas?
D'abord, je reste optimiste. Moi, je ne partage pas les pessimismes du professeur Boubka Bamba et les problèmes de la population qu'il évoque là. Mais on va le trouver la solution où? Ce n'est pas en se lamentant. Ce n'est pas en nous lamentant dans les médias ou dans les institutions ou en dehors des institutions. C'est à travers un processus qui est déjà engagé, quoi. Donc moi, je garde un peu d'optimisme, parce que si nous tous nous devenons pessimistes, évidemment, il n'y aura pas d'engagement personnel. Même si moi je suis pas négociateur là-bas, même si lui n'est pas négociateur là-bas. Mais garder un peu d'optimisme, proposer si j'avais des solutions constructives, moi je crois que c'est ce qui est beaucoup plus républicain. Et je finirai aussi en m'adressant à Placide Zikama. Qui veut la paix prépare la guerre. Vous voyez, mais la guerre on la prépare quand? On la prépare pas en pleine guerre, la guerre. La guerre, on la prépare en temps de paix. Il faut saisir des moments de paix. On a eu des moments de paix dans ce pays. Il fallait saisir ces moments-là. On en aura, hein, après la conclusion des accords de paix. Il faudra alors, à ce moment-là, saisir les moments de paix pour construire une armée, un service de sécurité efficace. Mais vous engagez dans la guerre une armée qui n'a pas été totalement bien réformée, évidemment, il faut craindre l'enlisement. Et je crois que celui qui aime la population ne voudra pas la conduire dans un enlisement. Et Tshisekedi est conscient de ça. Raison pour laquelle il ne se limite pas qu'à la solution militaire. Il pense qu'il faut... Il faut finir la guerre aussi par des solutions diplomatiques, politiques et diplomatiques.
Merci. Placide Nzilamba, votre mot de la fin.
Donc, je voudrais dire ici que peut-être on peut l'imaginer ainsi, mais l'intention qu'on a eu pendant tous ces 30 ans, c'est de faire de cette partie une partie de ou un autre État ou annexé à l'autre État. Et que donc, pour nous, c'est de dire, devant cette intention, la négociation ne paraît pas une solution très efficace. Moi, je crois qu'il faut s'organiser en tant qu'État et s'affirmer sur les terrains.
Merci, c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Bob Kabamba, Maître Juvenal Mounoubo Moubi et Monsieur Placide Nzilamba. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique, Dieudonné Nyangasa qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite de programme sur Radio Capitale.